Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Eh bien, nous continuons notre réflexion sur la culture générale que je fais à partir de mon livre « Comprendre la culture générale » paru chez Ellipse à Paris il y a un certain nombre d'années et toujours disponible en librairie. Alors où en sommes-nous? Eh bien, nous en sommes au chapitre 13 et dernier de cet ouvrage. Ce chapitre s'intitule « Esthétique de la modernité ». Alors, nous avons vu lors des émissions précédentes que l'esthétique elle-même, en tant que perception strictement formelle des œuvres d'art, était une notion moderne. Elle remontait à Kant et à son idée de finalité sans fin. Alors que la modernité tout entière, en regard, pouvait être considérée elle-même comme une esthétique, au sens où nous avons accès simplement à des formes sans qu'il y ait de contenu. Et j'avais mis en épigraphe à mon ouvrage la phrase de Hegel, « En art, comme en toute œuvre humaine, l'important est le contenu ». Vous voyez, Hegel s'oppose totalement à Kant de ce point de vue. Finalité sans fin d'un côté, dans l'analytique du beau, esthétique du contenu et non pas de la forme, la forme étant soumise au contenu, si vous voulez, pour ce qui est de Hegel dans son grand ouvrage sur l'esthétique. Alors, puisque nous en sommes à Hegel, je vous ferai remarquer que selon Hegel, l'œuvre moderne, celle qu'il appelle romantique dans son esthétique, est tout entière minée par l'ironie. Il faut comprendre ici que l'auteur doute toujours dans son œuvre de ce qu'il fait. On soupçonne aussi qu'il ne s'implique pas profondément, comme on dit, dans sa création. Et à la fin de son esthétique, Hegel va même jusqu'à parler de la mort de l'art. Cette notion d'ironie et celle corrélative de ludisme, c'est-à-dire de jeu sur les formes, font en effet toute la trame de la modernité, et on pourrait dire que dans la modernité, il n'y a plus de cosmos structuré auquel renverraient les œuvres, il n'y a plus d'englobant collectif partagé, hein. Les œuvres d'aujourd'hui reflètent une conception acosmique du monde, c'est-à-dire sans cosmos, comme le disait Hannah Arendt. Il n'est pas d'œuvre aujourd'hui qui ne doute sur son bien fondé, qui ne soit minée par sa propre contestation. L'esprit qui nie, comme dit Goethe à propos de Méphistophélès, est aussi le démon de la modernité. En effet, le diable, c'est quoi? C'est l'esprit de négation. Je suis celui qui toujours nie, et certes avec raison, car tout n'est bon qu'à s'en aller en ruine, et ce serait mieux s'il n'existait rien. C'est ce que dit Méphistophélès dans le Faust de Goethe, dans la traduction de Gérard de Nerval. L'esprit qui dit non, hein. Alors à quoi bon une œuvre si elle n'atteste plus aujourd'hui aucune culture, aucune croyance collective partagée, aucun englobant collectif, ou même aucune aspiration individuelle forte. Et c'est bien ce que manifeste l'ironie. Voyez ce que dit Baudelaire à la fin de Leoton Timoroumenos, c'est un mot grec qui veut dire « le bourreau de soi-même ».« Ne suis-je pas le faux accord dans la divine symphonie, grâce à la vorace ironie ?» qui me secoue et qui me mord. Vous voyez, c'est une notion d'ironie ou de distance. Il n'y a pas d'implication personnelle, je dirais, de l'artiste dans ce qu'il fait. Je pense aussi à ce que dit Apollinaire dans Zone, début du XXe siècle, et c'est quelque chose de prophétique, de prémonitoire, hein. Il dit, si tu vivais dans l'ancien temps, tu entrerais dans un monastère, c'est-à-dire, si tu n'avais pas honte, tu pourrais aller faire une prière, et aussi quelque chose de très important, les étincelles de ton rire dorent le fond de ta vie. Donc ça s'oppose au fond d'or des icônes. Le fond d'or signifie une transcendance, un sacré. Et là, le sacré entre guillemets moderne, c'est simplement le rire ironique, c'est-à-dire l'absence totale de sacré. Les étincelles de ton rire dorent le fond de ta vie. C'est un tableau pendu dans un sombre musée, dit Apollinaire, hein. Quelquefois tu vas le regarder de près, etc. Mais là on sent bien la nostalgie d'un ancien monde où les œuvres étaient soumises à des croyances, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors on pense au dadaïsme, par exemple, moderne, et au goût du néant, dada, dada, hein, bon, ça veut dire rien, en quelque sorte c'est comme un nada, hein, espagnol. Je pense par exemple à l'œuvre de Duchamp, hein. Duchamp a déconstruit toute la peinture occidentale en montrant qu'elle n'était que arbitraire, aléatoire, et que c'est le regardeur qui fait d'une œuvre qu'elle est une œuvre. C'est aussi la solennité de son inscription dans un lieu public, comme le musée, qui suffit à transformer n'importe quoi, hein, un ready-made, par exemple, un urinoir, ou bien un casier à bouteille, en œuvre d'art, vous voyez. Alors, la modernité, est-ce qu'elle a vraiment le meilleur rôle? Est-ce qu'il vaut mieux être dupe de fiction, comme autrefois, et être heureux en croyant à ces fictions, ou bien intelligent en les détruisant? Est-ce qu'il vaut mieux peindre la Joconde ou bien lui faire des moustaches, comme l'a fait Marcel Duchamp, hein? Donc, il y a là un esprit, je dirais, diabolique dans la modernité, hein? Un esprit aquaboniste, voilà, aquabon, hein? Je pense à un autre poème de Baudelaire qui s'appelle L'Avertisseur, hein. Quoi qu'il le désire ou qu'il espère, l'homme ne vit pas un moment sans subir l'avertissement de l'insupportable vipère. Voilà. C'est un serpent, un serpent. Tout homme digne de ce nom a dans son cœur un serpent jaune, installé comme sur un trône, qui s'il dit je veux, répond non. Voilà. L'esprit de négation, non. L'avertisseur. La vipère, le serpent, justement, montre à l'homme le néant de tout ce qu'il pourrait faire, créer. Donc, c'est ça, l'aquabonisme. À quoi c'est bon, hein? Alors, Amiel disait « Est homme, non celui qui dit « me voici », mais celui qui triomphe du saboteur qui est en lui ». Il y a en nous un saboteur, hein, qui nous dit toujours ce fameux nom ou ce à quoi bon, hein. Alors, se frapper la poitrine triomphalement en disant c'est moi, c'est moi, c'est moi, ça c'est facile. Mais triompher d'un saboteur intérieur, d'un diable intérieur, c'est autre chose. Alors, l'esthétique moderne est une esthétique entièrement de l'abrupt, hein, une esthétique de la rencontre non préparée. Cela correspond à la conception acosmique du monde dont je parlais tout à l'heure à propos d'Anna Arendt. En effet, les œuvres anciennes préparaient le récepteur à les goûter, tandis que les œuvres modernes ne font plus les préparations. Cela est homologue à la vie moderne qui est faite de chocs, de rencontres rapides, d'imprévus. Regardez le passant dans les rues des villes. Le passant ne voit que des fragments, des choses, des éclairs fugitifs. Par exemple, d'une femme entrevue, hein, il ne reste que des détails, le bord d'une robe, une main, un bout de jambe, un regard. Et c'est ce que Baudelaire évoque quand il traite d'une rencontre de ce type dans un poème des Fleurs du Mal qui s'appelle « Une passante ». Je vous lis la fin, hein, plutôt le début. Hein. La rue assourdissante autour de moi hurlait, longue mince en grand deuil, douleur majestueuse. Une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble avec sa jambe de statue, moi je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan. La douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Voyez donc des fragments, hein, le feston, l'ourlet, le regard. On ne voit que ça. Alors la femme Baudelaire dans les tercets de ce sonnet dit fugitive beauté qui m'a fait un instant souvenir et renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais, Donc, c'est une rencontre inaboutie, hein. L'amertume des sympathies interrompues, comme le dit Flaubert dans l'avant-dernier chapitre de l'éducation sentimentale, hein. Donc, on rencontre des personnes, c'est un teasing, un aguichage, mais après, plus rien. Hein. Un éclair, puis la nuit, dit Baudelaire, hein, qui m'a fait un instant souvenir et renaître. Voilà. Hein. Donc, nous sommes condamnés à ces rencontres qui font de la beauté quelque chose d'éphémère. André Breton parlait de la beauté convulsive. C'est une beauté saccade, c'est un signe ou une forme dans toute sa pureté, hein, mais l'esprit n'intervient pas pour penser ces choses-là, parce qu'il n'y a plus d'englobant fédérateur dans lequel tous les esprits peuvent se reconnaître et communier. Il reste à chacun seulement des éclairs, ou comme on dit, des flashs, hein. Alors certains, les surréalistes, hein, ont voulu faire de la rencontre non préparée la clé de leur esthétique. Ils s'autorisaient de l'Autréamont au XIXe siècle. L'Autréamont disait « beau comme la rencontre fortuite sur une table à dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie ». Vous voyez, c'est une esthétique paratactique, c'est-à-dire de la pure juxtaposition, comme on dit en rhétorique. La parataxe, c'est la juxtaposition. Ça s'oppose à l'hypotaxe ou la subordination. Hein. C'est une esthétique du bric-à-brac, une esthétique du marché aux puces, en quelque sorte. Hein. Alors bien sûr, on pense au cadavre exquis surréaliste. C'est une méthode que l'on vante parfois, qui consiste à mettre des petits papiers dans un chapeau et ensuite de les tirer au sort pour faire, soi-disant, des poèmes. Mais cette méthode peut donner, bien sûr, des débuts, des points de départ, mais jamais une œuvre. Et d'ailleurs, Roger Caillois l'a montré dans un livre qui s'appelle « Son vocabulaire esthétique ». Par exemple, je peux mêler ensemble le mot arbre et le mot éponge, je les mets dans le chapeau, je les tire, et puis alors j'ai l'éponge de l'arbre ou l'arbre de l'éponge, etc. Ou même je peux comparer abruptement un arbre à une éponge, mais le résultat sera insignifiant. Tandis que si je lis, comme Saint John Perse l'écrit dans Anabase, chant 7, « et de l'éponge verte d'un seul arbre, le ciel tire son suc violet », alors là, je suis comblé au-delà de toute espérance, hein, parce que c'est l'éponge et l'arbre sont insérés dans une phrase, dans un contexte qui, justement, justifie leur juxtaposition. Mais sinon, si j'ai simplement éponge et arbre, je n'ai pas de poème. L'image chez Saint John Perse, elle est intéressante. Car elle s'éclaire, je le répète, d'un ensemble, d'un contexte ou d'une situation, le ciel, sa couleur, sa substance, etc. En fait, il faut être bien habile pour faire désordonner, hein. Souvent, un beau désordre est un effet de l'art, hein. Mais il faut préparer l'esprit, de toute façon, à goûter le désordre. Mais qui s'occupe encore aujourd'hui de faire les préparations ? Voilà, je viens de parler de parataxe, c'est-à-dire de juxtaposition, c'est un mot grec qui veut dire juxtaposition. Eh bien, je dirais que toute cette esthétique moderne est totalement paratactique, comme on dit en rhétorique, c'est-à-dire qu'elle juxtapose des éléments sans se préoccuper de les lier, de les organiser, de les hiérarchiser. Et c'était pourtant le rôle traditionnellement dévolu à l'esprit. L'esprit a toujours fait et défait, construit et déconstruit, comme Pénélope ou Sisyphe, et c'était là son travail subtil. Mais aujourd'hui, il y a des matériaux de construction sans construction, comme on dit en latin « membra disjecta », des membres éparpillés, hein, disjoints. Alors, ce qui pourrait résumer cette esthétique moderne, c'est par exemple le journal télévisé. Dans le journal télévisé, les nouvelles s'enchaînent sans aucun lien ou sans aucune transition, les unes aux autres, tout s'équivaut finalement, et tout s'annule, par l'égalité de traitement. D'ailleurs, parfois, les journalistes disent « sans transition », comme pour s'excuser par avance. Hein. L'esprit s'obscurcit jusqu'à l'incohérence, et il y a une hébétude finalement, et une irresponsabilité totale du regardeur de toutes ces images. Je pense au film de Michael Haneke qui s'appelle « Benny's Video hein, ». Benny's Video. Au cinéma, le montage est fait « cut » maintenant. Autrefois, il y avait des fondus qui faisaient des transitions. Maintenant, on monte « cut hein, », c'est-à-dire sans transition. Donc je pense que, s'agissant de l'art moderne, il y a une crise de la symbolisation. Je rappelle que le mot de symbole, de construction, et l'expression construction symbolique, c'est l'âme même de tout mon livre. Hein. Eh bien, à quelle construction symbolique l'art moderne, collective par exemple, l'art moderne renvoie-t-il? On peut se le demander. L'œuvre aujourd'hui se donne volontiers simplement pour ce qu'elle est. What you see is what you see. Ce que vous voyez, c'est ce que vous voyez. C'est une déconstruction. Voyez par exemple le groupe Support Surface avec Viala, par exemple. Alors, tout ça, on peut dire, circuler, il n'y a rien à voir. Hein. Or, l'esprit est ainsi fait qu'il n'admet pas volontiers la tautologie. Hein. Ce que vous voyez, c'est ce que vous voyez. Par exemple, il y a une figure qui s'appelle l'antanaclase, qui consiste à répéter un mot en lui donnant chaque fois un sens différent. La deuxième occurrence donne un plus sémantique par rapport à la première. Si je dis un tableau est un tableau, hein, eh bien malgré tout, mon esprit me force à opposer un accident et une essence, hein, par un changement sémantique qu'on appelle une diaphore, hein, et malgré tous nos déconstructeurs actuels qui sont des tautologues, hein, voilà. Je crois que l'esprit cherche toujours du sens. C'est passionnant de déconstruire, mais ensuite il faut reconstruire, au moins guider le lecteur sur les chemins de la reconstruction, en mettant des balises de temps en temps. En fait, il n'y a rien à voir, il n'y a rien non plus à savoir. Je pense à la pièce de Yasmina Reza qui s'appelle Art, à propos d'un tableau blanc ou quasiment blanc. Hein. On s'est moqué de Yasmina Reza en disant qu'elle avait pris le parti de critiquer la totalité de l'art moderne. Je pense que cette pièce est intéressante quand même, hein, parce que nous projetons toujours des significations sur les œuvres. Et quand l'œuvre est toute blanche, c'est difficile à savoir quelle signification lui donner. Par exemple, jeunes filles chlorotiques, faisant leur première communion, partant de neige, par exemple, tout est blanc, hein, tout est blanc, vous voyez, bon. Alors, j'arrive au terme là, de mon ouvrage, et le dernier chapitre est comme un requiem pour une culture. Hein. Je rappelle ce qui s'est passé. D'abord, on a cru aux dieux et on les a priés. C'était les cultures religieuses, principalement collectives. Ensuite, on a raconté des histoires et l'on a cru aux fictions que l'on racontait. Ce sont des cultures laïques et plus individualistes, cultures de l'imaginaire. Il y a eu d'abord le surnaturel, comme le disait Malraux dans son livre à trois, son triptyque, La métamorphose des dieux, hein, le surnaturel, croyance aux dieux, et puis l'irréel, à partir de la Renaissance italienne, les artistes ont inventé des fictions auxquelles ils croyaient, l'irréel, mais tout ce temps est passé, et notre époque est toujours, selon le mot de Malraux, celle de l'intemporel, c'est-à-dire le troisième tome de sa métamorphose des dieux. Surnaturel, irréel et trois, intemporel. Alors ce mot est bien beau, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Maintenant, les œuvres sont passées du temple au musée, et le musée est un cimetière des croyances. Elles sont largement diffusées, Elles sont reproduites par la photographie, par exemple, et elles risquent d'y perdre leur aura, A-U-R-E-A, c'est-à-dire leur auréole de sacralité, si vous voulez. Je pense au livre de Walter Benjamin, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Donc, on reproduit les œuvres, on détruit peut-être leur prestige par la reproduction. Et aujourd'hui, jamais on n'a eu autant d'images, Internet, etc. Et jamais on a eu moins de contact avec ce que les images signifiaient. Est-ce que c'est le règne de l'intemporel, comme dit Malraux, ou bien tout simplement le règne des fantômes, le règne de l'oubli ? Alors qu'est-ce qu'il va rester de ce champ de ruines ? On contemple des formes vides, on admire et on célèbre tout ce que l'on ne comprend plus, et on zappe au milieu de tout cela. Il n'y a plus le cérémonial culturel traditionnel, on dit la ruée vers l'art, comme s'il y avait une ruée vers l'art, comme une ruée vers l'or, en quelque sorte. C'est totalement démagogique. Alors aujourd'hui, la culture devient, je dirais, épileptoïde, la culture hip-hop, par exemple, et la culture peut-être du rap. Alors je m'excuse par avance auprès de ceux qui aiment ces formes culturelles. Quant au langage lui-même, il ne correspond plus à rien. Super, par exemple, remplace beau et s'emploie en toute occasion. Cool, pareil. Génial peut qualifier un joueur de tennis, par exemple, ou un dentifrice. Donc plus rien n'est hiérarchisé. Et c'est là sûrement un des phénomènes les plus graves. Toute atteinte au langage, à la propriété des mots, est mortelle pour les esprits. Désormais, il n'y a plus de verbe, comme le dit Ernst Junger dans son traité du rebelle. Il y a simplement des vocables, une espèce de bouillie verbale qui est faite de stéréotypes interchangeables. Et ça, c'est important. Quand le langage connaît une telle décadence, quand il y a des métaphores abusives et disproportionnées, par exemple, lecture d'un coup droit au tennis, quel rapport ça a avec la lecture, les exemples sont innombrables. Comme il y a une pollution physique aujourd'hui, dont s'occupe l'écologie, il y a aussi une pollution mentale, dont devrait s'occuper une écologie mentale, en quelque sorte. Il faudrait faire attention au langage. Confucius disait que la première tâche du souverain de l'Empire, c'était de faire attention au sens des mots, de redonner le sens initial des mots, de restaurer le langage. Et bien plus tard, Camus disait la même chose. Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Giraudoux dit quelque part que les nations meurent d'imperceptibles impolitesses, comme dans la fable « Le lion et le rat » de La Fontaine, une maille rompue emporta tout l'ouvrage. Donc quand on parle approximativement avec cette bouillie verbale, eh bien les esprits perdent toute leur finesse habituelle. Donc d'un point de vue anthropologique, le monde moderne, c'est un monde de la glisse, un monde léger et aérien, un monde en apesanteur, résume tout cela, le windsurf, le skateboard, le kitesurf, etc. On veut glisser aujourd'hui. Et en esthétique, j'ai parlé du montage cut des clips ou de la pub. C'est un montage très rapide. C'est une esthétique du surdécoupage. La durée d'un plan de la pub, faites le chronométrage, le plan ne dépasse pas 3 ou 4 secondes. Opposer une pub d'aujourd'hui et une pub d'il y a 20 ou 30 ans, qui était beaucoup plus longue, plus lente, qui essayait de convaincre et pas seulement d'émouvoir, cet exercice serait très intéressant. Autrefois, pour vendre une voiture, on faisait appel à la réflexion du spectateur. On disait, le moteur est robuste, elle durera longtemps, ou bien elle ne consomme pas beaucoup d'essence, etc. Donc vous avez appel à la réflexion. Mais maintenant, ces petits clips là de 3-4 secondes nous bombardent de stimuli qui ne font appel qu'à notre sensibilité. Et il n'y a plus de pensée, de réflexion. Et quand je ne pense plus, je ne pèse plus. C'est le sens de pensare, double sens de pensare, en latin, vous voyez. Donc nous sommes dans un état d'apesanteur, Et à l'opposé, dans le cinéma traditionnel, celui que j'aime personnellement, il y avait des plans fixes ou des plans séquences qui pouvaient durer longtemps. Hein. Voyez par exemple le cinéma japonais, le cinéma d'Ozu, hein. Le cinéma aussi de son admirateur d'Ozu, c'est Wenders, Wim Wenders. Hein. Mais aujourd'hui, ou alors le cinéma de Jacques Tati. Dans Playtime, l'écran justement est très grand et il y a des gags qui se passent, soit en haut, soit à gauche, soit à droite, en bas, etc. Il faut que le spectateur ait l'habitude d'observer, et c'est pour ça que le plan est très long. Mais aujourd'hui, il n'a plus cette habitude d'observer des tout petits détails dans les coins de l'écran, hein, et le film Playtime a été un échec commercial retentissant pour Tati. Je crois qu'il s'est ruiné à propos de Playtime. Donc aujourd'hui, les gens s'endorment quand on ne les stimule pas, justement, à coup de plans très rapides. Hein. Aujourd'hui, l'esthétique, c'est la juxtaposition de petites unités visuelles autosignifiantes. Il n'y a pas d'ellipse, pas de direction de pensée suggérée. C'est ce que Serge Danet appelait le visuel. Hein. Alors, voyez par exemple La Société du spectacle de Guy Debord. Hein. La vérité, c'est qu'il n'y a plus de fond substantiel aux choses. Et à bien des égards, la modernité occidentale n'a aujourd'hui d'autre culture que formelle. Donc, c'est une culture des apparences et aussi une apparence de culture. Alors là, avant de terminer, je voudrais que les choses soient bien claires. Je pense que je parle là, depuis le début de l'émission, plutôt de la postmodernité. Il y a une différence entre le moderne et le postmoderne. Tout ce que je viens de dire vaut pour le postmoderne. Beaucoup plus que pour le moderne. Le postmoderne, c'est la fin des insurrections intellectuelles, c'est la montée de l'insignifiance dont parle le philosophe Cornelius Castoriadis, hein. Tandis que le moderne correspond encore à la conception chrétienne du monde et à ses dérivés, rationalisme des Lumières, marxisme, messianisme optimiste, miliorisme, croyance à l'histoire et au progrès. Hein. Et le postmoderne, c'est le nihilisme qui suit cela. Hein. Le postmoderne peut être vécu dans la légèreté, la vacuité, l'indifférence, le ludisme, l'apesanteur. Hein. Par exemple, en esthétique, en architecture, Le Corbusier était moderne, fonctionnaliste. Hein. Et le postmoderne, c'est le ludisme de Beaufil, par exemple, dans le quartier Antigone de Montpellier, hein. Les constructions de la Grande Motte, par exemple, près de chez nous. Hein. C'est une esthétique théâtrale et ludique. On n'a pas besoin de colonnes doriques, par exemple, en béton. Hein. Simplement, c'est pour faire joli. Donc, cela annonce le kitsch, finalement. Hein. Donc, en fait, le nihilisme moderne, c'est une apocalypse assumée. Hein. Alors, pour conclure, je dirais que je me suis posé une question. Ce livre qui déconstruit les cultures, est-ce qu'il n'est pas justement lui-même responsable de ce qu'il dénonce ? Eh bien, je laisse cette question pour la prochaine et dernière mission à propos de ce livre. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.